Salve.
Come sta?
Permesso?
Maestro, prego.
Una grande storia d'amore, sì, sì.
Wow, ho detto mamma mia.
Viva l'Italia!
Allora, dai.
Buongiorno, bienvenue dans Allora, le podcast qui met de la dolce vita dans vos oreilles. Je m'appelle Claire, je suis journaliste passionnée par le bel paese, comme vous j'imagine. Ça nous fait donc un point commun. Alors je vous propose de partir en virée avec moi, à travers des histoires italiennes inspirantes. Vous me suivez?
Venez, venite con me, andiamo.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Allora. Et si on prenait un peu de hauteur aujourd'hui? Offrons une halte à notre flot permanent de pensées, d'idées, d'élucubrations pour se laisser guider par une philosophe qui plus est italienne. Ah ah, vaste programme, me direz-vous. Mais en vérité, je crois que tous les amoureux de l'Italie ont déjà eu leur initiation. Car en préparant cet entretien, j'ai réalisé que je parlais systématiquement dans chaque épisode d'Allora, mais aussi à chacun de mes voyages dans le bel paese, de la philosophie de vie italienne. Avouez-le, on en raffole tous de cet art de vivre unique, rythmé par ces petits plaisirs du quotidien. Alors, de prime abord, c'est peut-être un peu réducteur comme approche, mais en me plongeant dans les livres de mon invité, j'ai compris que c'était aussi ça, faire de la philosophie, la laisser entrer pleinement dans nos modes de vie et modes de pensée actuels. Depuis Rome, où elle habite, cette diplômée de l'École nationale supérieure de Pise, devenue à Paris docteur en philosophie, nous livre ses conseils pour intégrer cette sagesse dans notre vie de tous les jours. Dans ses essais, elle convoque les grands philosophes tels qu'Épicure, Aristote ou Spinoza et actualise pour nous leur vision du monde et leurs éclairages sur nos émotions. Je n'ai jamais dévoré des livres de philo aussi vite, car ces mots agissent sur nous telle une boussole intérieure, nous aidant à trouver la voie du bonheur et de la sérénité. Son dernier livre, sorti chez Plon en janvier, s'intitule « Raison et sentiment ». Vous l'aurez compris, on y parle d'amore. Alors, on en profite. Aujourd'hui, je vous propose non seulement une leçon de romance à l'italienne, doublée d'une leçon de philosophie avec Ilaria Gaspari. Bonjour Ilaria.
Bonjour Claire, merci.
Ben merci à toi de nous accorder un petit peu de temps pour Allora, parce que du coup, c'est un aller-retour en France et j'ai de la chance d'en profiter, qui est très rapide, c'est ça. Tu viens faire la promotion de ton dernier livre, sorti il y a quelques semaines en France.
Oui, c'est ça. Mais c'est moi qui ai de la chance, parce que je suis trop contente d'être ici avec toi. Mais c'est vrai que j'ai aussi un livre qui va sortir en Italie, va paraître en Italie. Donc voilà, c'est
oui,
de
la roman, La Reputazione.
C'est ça.
Tu as la double casquette, philosophe, mais aussi romancière, en fait. Et les deux approches se mêlent finalement dans ton écriture assez souvent.
Oui, je pense que je suis toujours un peu au croisement des choses, non? Entre le roman et voilà, et l'essai, entre la France et l'Italie aussi, j'ai fait mes études dans les deux pays et j'aime mélanger. Je trouve que le mélange nous donne la curiosité de découvrir. Et pour moi aussi, c'est une stimulation continuelle. Donc, voilà. Pardon si j'ai fait des erreurs des Français.
Non, il n'y a pas d'erreur. Il y a l'accent qui chante, qui nous emporte de toute façon. Mais c'est un enrichissement, en fait, total d'être justement à la croisée de tous ces chemins.
Oui, voilà. Et c'est quelque chose que j'adore. Et je trouve que ça enrichit l'écriture, mais aussi le regard. Oui. Et donc, voilà, j'essaie de faire ça. Et c'est un peu ma nature.
Alors, on a un rituel de début d'épisode. On pose le décor. La capitale française, tu la connais bien pour y avoir vécu quelques années. C'est à Paris que tu as écrit ta thèse et ton premier roman.
Oui.
On en parlera tout à l'heure. Toi qui as vécu dans certaines des plus belles villes italiennes, Milan, Pise et Rome aujourd'hui, qu'est-ce que Paris avait de plus à travers tes yeux d'italienne? Quand tu es arrivée à Paris, j'ai lu que tu disais « Paris, c'était mon rêve depuis toujours ». Pourquoi?
Ah oui, c'était mon rêve depuis que j'étais très petite. La première fois que je suis venue ici, j'avais, je pense, 12 ans, 13 ans. Et j'étais en voyage avec l'école. Et on était venus avec les trains de l'Italie,
d'accord,
de Milan, parce que c'est pas loin, finalement.
Oui, ça se fait assez facilement. Ouais.
C'était une aventure parce qu'on était petits, mais voilà.
L'aventure!
L'aventure. Et là, je suis tombée amoureuse de la ville. Je parlais déjà un peu français parce que j'avais une nounou française quand j'étais
génial.
Petite. J'avais déjà un peu l'oreille à la langue que j'ai toujours adoré. Et en Italie, comme j'ai un accent un peu particulier, quand je parle italien, parfois il m'arrive que les gens me demandent si je suis française.
C'est vrai.
Oui. Et donc voilà. Et c'était quelque chose qui m'arrivait depuis que j'étais
très
petite.
Parce que tu prononces les R peut-être d'une certaine façon, c'est ça?
Peut-être un peu, oui,
ça,
voilà. Et j'ai parlé très vite aussi. Et voilà.
Donc
et
ça fait que les deux langues
s'entremêlent un peu.
C'est ça.
Ouais, voilà, voilà. Mais même si je sais que quand je parle le français, on sent très bien que je suis italienne. On le voit très, très bien. Ouais, voilà. Et donc, quand je suis arrivée à Paris, au début, ça devait être quelques mois. Après, j'ai obtenu ma co-tutelle de la thèse. Donc, je suis restée 4 ans finalement.
Plus longtemps que
voilà.
Prévu.
Et ouais. C'est un peu ma vie. Non, ouais. J'arrive dans un endroit, je pense y rester quelques semaines, quelques mois. Et après, ça fait des années. Et donc, voilà, c'est un peu l'improvisation.
Ouais.
Qui a ses bons côtés, aussi des côtés un peu troublants parfois. Voilà. Mais voilà. Donc, quand je suis arrivée, je me souviens, j'avais mon premier appart, c'était à Belleville, métro Pyrénées.
Oui.
Donc, c'était tout en haut de la rue de Belleville. Et donc, j'ai regardé en bas de la rue, on voyait Paris, en bas, on voyait la tour Eiffel.
On est très en hauteur. Donc, ouais.
Voilà, et c'était un moment magique. Et là, je me suis dit, bon, tu es arrivée à réaliser un rêve. Je faisais mon doctorat en philosophie. Donc, j'avais aucune certitude d'avoir un jour une carrière, un boulot même.
Oui, tout le monde te laissait aller à ce qui allait arriver finalement.
Voilà. Ouais. Et je me suis dit, là voilà, au moins un rêve, je l'ai réalisé.
Ouais.
Je vais habiter ici quelques mois.
J'y suis.
Et là, c'était aussi un endroit dont j'avais lu dans les livres de Daniel Pennac. Il y avait aussi Romain Gary, que j'adore.
Ouais.
Et donc, j'ai respiré cette atmosphère.
Tu étais comme dans un roman finalement, voilà. Dans ce quartier qui est extrêmement rythmé.
C'était ça. Et après, c'était vraiment des années de rêves que j'ai vécues là. J'avais cette sensation d'être où les choses devaient se passer.
Et on va comprendre très vite que tu as quand même accompli pas mal de choses à Paris quand même, en termes d'écriture.
Oui, j'ai commencé. Oui.
C'était pas mal quand même. Hein. Donc, c'est une ville qui a eu...
Oui,
c'est ça, qui a eu une jolie place, en tout cas, dans ton début de parcours d'écrivain. Alors, si tu es d'accord, nous allons parcourir ensemble les grandes lignes de ton parcours. Chaque numéro d'Allora est construit comme un roman, justement, que l'on chapitre au fil des épisodes de vie. Mais dans les livres, il y a souvent une préface, comme une introduction qui donne le ton de l'histoire. Alors, pour comprendre comment tu vis et pratiques la philosophie au quotidien, je te propose une rapide expérience immersive dans ta peau de philosophe.
Studiare la filosofia, soprattutto per noi giovani, può essere importante sia per comprendere la realtà in un modo diverso e anche appunto studiando i filosofi capire come loro vedevano il mondo che noi abbiamo trasformato.
Dans Raison et Sentiment, tu as trouvé une solution que je trouve juste géniale. Pour rendre la philosophie accessible à tous, elle prend une apparence humaine et se transforme en un personnage à part entière appelé, évidemment, Sophie. Et franchement, ça m'a donné très envie de m'en faire une copine, car pour vous la décrire, elle a un look de folie, puisque sa garde-robe a traversé les siècles. Elle est experte des telenovelas et des comédies sentimentales qui l'aident à comprendre la société actuelle et nos sentiments. Meg Ryan est son phare dans la nuit, attention. Elle sirote des Moscow Mule dans sa baignoire pour se relaxer parce que son cerveau travaille trop. Son seul défaut, c'est peut-être qu'elle pense trop, mais ça fait d'elle une impeccable conseillère dotée d'une grande sagesse. On lui doit quand même 2500 ans de bons et loyaux services. On le comprend, tout ça est très imagé, mais est-ce que cette idée de lui faire prendre une apparence humaine t'est venue parce qu'au quotidien, c'est comme ça que toi, tu te la représentes, la philosophie?
Oui, tout à fait. Tu as bien lu.
C'est ta copine, en fait.
Tu as vraiment deviné. Alors, ces livres, j'ai commencé à y penser dès que j'ai fait mes études, mon doctorat.
Ah, ok.
J'avais l'idée de faire un jour un roman philosophique, un conte philosophique comme on en faisait au XVIIIe siècle. C'est quelque chose qui n'est plus à la mode depuis longtemps. Et là, voilà pourquoi peut-être...
Tu l'as remis au goût du jour.
Par exemple, il y a certains romans Diderot, mais il y a Voltaire que j'adore aussi. Mais Diderot, je trouve, il a une touche formidable hein, en faisant vivre des conseils des philos. Donc, il y a, par exemple, ce roman Jacques les Fatalistes,
d'accord,
où il y a la pensée spinozienne à laquelle j'ai consacré ma thèse.
Oui.
Qui est
c'est un peu ton chouchou, Spinoza. Hein,
oui, c'est,
ce
un
que...
peu... ouais, c'est ça. Je lui ai consacré plusieurs pages que j'ai écrites avec plein de fatigue.
Mais voilà, oui, parce que c'est dense,
Spinoza. Très dense, mais finalement, c'est vraiment quelque chose que je suis très contente d'avoir fait parce qu'il m'a donné une façon de regarder, de comprendre les choses que je n'aurais pas pu attendre différemment. Et en même temps, j'avais toujours la sensation, quand j'ai parlé aux gens, aux amis, voilà, de mon doctorat, de ma thèse que je faisais, ils me disaient, mais c'est très difficile à lire. J'ai essayé de lire Spinoza, c'est très difficile. Alors, j'avais un peu, voilà, cette idée qu'il fallait trouver une façon, pas de simplifier, mais de faire voir une voie d'accès, oui. Non, qu'on pouvait y arriver.
Complètement.
Et alors, voilà, cette idée un peu drôle de faire de la philosophie en personnage, c'est quelque chose à laquelle j'ai pensé, tu vois, à la bibliothèque, en faisant mes études. Et si la philosophie était là? Et si c'était une fille? Si c'était une fille qui est toujours jeune, même si elle a vécu...
2500 ans d'histoire. Voilà, c'est oui, c'est vrai, mais elle reste là et toujours actuelle.
Et donc, j'avais l'idée d'en faire un petit roman, oui. Tout petit roman. Et là, j'ai pensé, bon, je vais faire une allégorie de la philosophie qui est vivante. Et donc, j'ai essayé de le faire, c'était folle.
Mais vraiment, c'est génial, parce qu'en fait, on a un personnage principal qui est Mina, que l'on suit à travers toutes ses réflexions, tous ses questionnements autour de l'amour, de sa vie sentimentale, et puis son amie Sophie, et donc sa conseillère. Et en fait, c'est à travers sa voix que tu injectes des pensées philosophiques et que tu te réfères aussi à des grands philosophes pour mieux comprendre certaines approches et les rendre très actuelles et concrètes aussi.
Avoir un personnage de la philosophie, ça m'a beaucoup aidé à mettre en relation les pensées que j'ai empruntées à des grands philosophes et aussi avec la vie quotidienne parce ouais. qu'on a toujours une façon de se rapporter à la philosophie comme si c'était quelque chose de très détaché de notre vie quotidienne.
C'est vrai.
Alors que, par exemple, une matière comme l'amour, c'était au début une matière philosophique. Les premiers philosophes s'interrogeaient sur la nature de l'amour. Et donc, j'ai pensé, pourquoi perdre ça?
Alors, pour être dans ta tête de philosophe, dans ta démarche de philosophe, si on devait convoquer trois philosophes pour qu'ils nous donnent trois clés face à l'amour, quels seraient pour toi les trois conseils à travers trois philosophes auxquels tu t'es référé pour écrire ton livre?
Alors, je les ai.
C'est là, c'est bien en fait.
Alors, je partirai des origines, finalement, oui. Et je partirai des Platon. Platon, okay. Dans son banquet, il fait une fête, et là aussi... Je trouve que c'est très vivante, cette idée de la philosophie qu'on fait en faisant la fête.
Oui, non, c'est vrai. C'est... Et en étant tous ensemble, parce qu'en fait, la
tous
philosophie,
ensemble et tous
c'est...
Ivres aussi.
C'est ça, parce c'est la fila, c'est ça. C'est ça. C'est le fait d'être ensemble.
Être ensemble, donc il y a cette dimension communautaire qui était très vivante dans la Grèce ancienne. Et il y a aussi le côté des livresses, parce qu'ils sont tous ivres dans ces banquets. Mais ils parlent d'amour.
Oui.
Ils parlent d'amour et ils cherchent une définition. Et finalement, la définition de Socrate est la définition qui gagne la soirée, parce que c'est un peu comme si c'était une compétition à qui est le meilleur.
Les joutes verbales.
Voilà.
Oui.
L'idée, c'est que Eros, donc c'est le désir, donc ce qui nous entraîne vers l'amour, ce qui donne à l'amour sa substance, c'est une tension qu'on a envers quelqu'un d'autre,
oui.
Mais qui naît d'un manque. Donc ça a besoin d'un vide pour se développer.
Ouais.
Et là, je pense que c'est très important parce que là aussi, il y a des thèmes très sérieux qui s'y lient à ça. Les thèmes, par exemple, de l'amour entendu comme possession, qui est très fort en Italie, dans une culture un peu machiste comme celle italienne. Et là, ça nous donne des thèmes de réflexion en ce moment. Il y a beaucoup de féminicides. C'est un thème très chaud et très, très fort et qui me rend très triste. Mais l'idée de voir que les désirs se déplacent dans un vide, donc il n'y a pas de possession, parce que sinon ça tuerait l'amour, ça tuerait Eros.
Oui.
Et donc on a besoin d'une distance. Là, c'est quelque chose que je veux garder sur moi, dans ma tête, en pensant à l'amour.
Et d'ailleurs, il y a une citation que je me suis notée de la philosophe Simone Veil qui dit « Aimer purement, c'est consentir à la distance, c'est adopter la distance entre soi et ce que l'on aime. » C'est ce que ça définit finalement.
C'est parfait. Et ça aurait été la deuxième philosophe.
La deuxième philosophe.
C'est ça. Non, mais c'est ça, parce que je pense que ça, c'est très important de les garder dans la tête.
Ouais.
Et là, ça me donne aussi l'occasion d'enfiler un quatrième philosophe entre mes trois, qui est Spinoza. Parce qu'elle est très spinozienne en disant ça. Parce que pour Spinoza, l'amour, c'est une forme de joie. Donc, c'est une augmentation de sa perfection. La perfection, c'est l'intensité avec laquelle on est vivant.
Ouais.
Et donc, on augmente ça. Non, l'amour, c'est quelque chose qui nous rend plus grands.
Plus vivants, quoi, tout simplement.
Voilà, et plus enracinés dans ce qui nous arrive.
Ouais.
Et dans ce qui arrive à la personne qu'on aime. Et c'est une personne qui est à l'extérieur de nous, dans la définition de Spinoza. Donc, dès qu'on voit quelqu'un qu'on aime comme une personne qui a ses secrets, qui a son individualité, alors là, l'amour, ça peut se déplacer, ça peut engager cette tension entre nous et l'autre.
Complètement.
Et le troisième philosophe que je voudrais mentionner, c'est Théodore Adorno. C'est un philosophe, on l'associerait même pas trop à l'amour, au discours de l'amour.
D'accord.
Mais il y a une phrase que j'aime beaucoup mentionner quand on parle d'amour. Il dit qu'on est aimé là où on peut montrer sa faiblesse sans recevoir en réponse la force.
Oui.
Donc, sans recevoir une agression en réponse. Donc, comme c'est l'amour, c'était un lieu pour la vulnérabilité. C'est un lieu protégé.
Il faut lâcher les armes, en fait.
Voilà.
C'est ça. C'est le terme que tu utilises, d'ailleurs, je crois, c'est savoir se désarmer.
Oui, c'est ça, c'est démasquer. C'est laisser tomber notre armure.
Ouais, complètement.
Tout ce qui nous protège.
Oui.
Et en ayant la foi dans le fait qu'on est protégé par l'amour même.
Oui.
Et donc, ça, je trouve que c'est très, très émouvant. Et je sais que tout le monde, quand on tombe amoureux, on a peur.
Oui, non? C'est vrai,
et,
oui.
Et voilà.
C'est un mélange de deux émotions, en fait. En même temps, on a très envie et en même temps, on a une certaine peur parce qu'on sait qu'on abandonne certaines choses dans les mains de quelqu'un d'autre que soi.
C'est donc, ça, c'est ça. Et c'est quelque chose vraiment qui tient au miracle, non? Parce que finalement, ça arrive, ce que décrit Adorno.
Oui.
Ça arrive qu'on est désarmé, qu'on est faible, qu'on est vulnérable et que on ne reçoit pas l'agression en réponse. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui nous réconcilie avec la nature humaine, je pense.
Complètement. Bon, alors, merci pour cet éclairage amoureux. Après cette petite mise en pratique, je te propose de faire un vrai saut dans le temps pour comprendre ensemble comment tout a commencé et comment la philosophie a réussi sur toi son opération séduction. On commence tout de suite par le chapitre 1, intitulé « L'éveil par les mots ». A Milano.
Il mio immaginario è fatto della città in cui sono nata e io sono figlia di un luogo e Milano l'ho vista cambiare e mi è entrata nello sguardo.
Alors, tu es née à Milan en 1986 de parents enseignants, Vania et Gianmarco. Ils t'ont offert une éducation un peu révolutionnaire, écris-tu, car ils font le choix de vous éloigner, toi et ta petite sœur, des jeux ou activités consuméristes, telles que la télévision ou plus tard le portable. Ça donne une enfance singulière où l'évasion s'est faite autrement. Exit les dessins animés et les séries télévisées, bonjour les belles lettres. Tu apprends donc à lire très tôt, était-ce avec la littérature italienne?
Oui, c'est ça, c'est vrai, et c'est quelque chose qui m'a rendue un peu bizarre comme petite fille. Parce que je pense que
singulière,
oui. Voilà, parce que je voulais inventer des choses. J'avais cette tendance quand j'ai joué, mais tu sais, quand je m'habillais, par exemple, quand j'étais très, très petite, j'avais vu La Petite Sirène au cinéma. Et donc, j'avais envie d'être La Petite Sirène.
Ouais.
Et donc, j'ai rentré de l'école maternelle et je me mettais sur la tête une jupe qui était d'une tante, une jupe rouge.
Pour jouer à La Petite Sirène.
Et j'allais jusqu'au moment de me coucher, j'étais avec ces faux cheveux.
Tu étais La Petite Sirène.
Voilà,
tu incarnais la sirène.
C'était ça. Donc, j'avais déjà un peu une tendance, disons, créative à inventer des choses. Et
une tendance
faire
romanesque, en fait.
Voilà. Comme si. Et j'étais toujours été très intéressée par les histoires. Donc, quand j'ai commencé à lire moi-même, donc j'ai pu choisir, j'ai eu la chance d'avoir plein de livres entre lesquels choisir. J'étais très libre pour tout cela. Et ça m'a donné un peu les profils de mon identité. Parce que à l'école, comme tous les autres enfants, regardaient beaucoup de télé parce que c'était vraiment la mode. Il y avait cette émission
de dessins animés
qui étaient tous les après-midi et ils suivaient les histoires.
Mais oui, et toi, tu étais en dehors
de
ça.
Moi, j'étais dehors, sauf quand j'allais aux fêtes ou chez mes amis. Et il y avait toujours une grand-mère, une mère qui disait « Mais cette petite fille, elle a quelque chose de bizarre parce que j'étais collée à la télé parce que je ne l'avais pas chez moi. » Donc, je prenais le coca, je buvais plein de coca.
C'était ta drogue, en fait,
voilà.
Pendant un instant.
Et j'ai rentré chez moi complètement dingue. Voilà. Parce que pour moi, c'était quelque chose qui n'existait pas chez moi. Et c'est l'interdiction qui fait naître le désir. Voilà,
bien sûr.
Par contre, ça m'a rendue très tôt celle qui raconte les histoires.
Oui. Non,
à l'école, j'écrivais déjà des histoires et voilà, je les partageais avec mes amis et ils étaient intéressés par cela. Donc, j'ai eu d'un coup l'idée que je pouvais ne pas être excluse des autres parce que je ne savais pas ce que, qu'ils connaissaient, mais que je pouvais cultiver mon identité de façon alternative.
En fait, ta singularité devenait ta force d'une certaine façon et tu te distinguais des autres grâce à ça, en fait.
C'était ça. Et donc, voilà pourquoi j'ai toujours une très forte gratitude envers les livres, envers les histoires, parce qu'ils m'ont aidé à ne pas me perdre, tu vois, à ne pas vouloir disparaître parce que j'étais aussi assez timide. Mais là, quand il s'agissait des livres, j'étais plus timide. Là, c'était différent. Donc, c'était quelque chose qui m'a vraiment donné envie de chercher dans cette direction.
Oui, c'est ça.
Et de chercher et aussi la sensation que j'étais ça, que j'étais faite comme ça. Voilà.
Autre signe distinctif qui m'a fait sourire parce que je le trouve savoureux, tu as une amusie.
Ah oui.
Alors j'ai découvert ce que c'était, tu me dis si je me trompe, c'est un curieux trouble neurologique qui s'exprime par une incapacité à percevoir la musique dans son ensemble, c'est ça? Tu dis dans une interview, c'est comme si j'étais daltonienne mais en musique.
C'est ça.
C'est un peu ça.
C'est ça. Et là, si tu sens ça et le manque de télé, voilà, d'éducation, voilà. Donc,
c'est très drôle.
Quand je dis bizarre, je veux vraiment dire...
Tu étais à part, dans un monde à part.
Parce
que ce que j'ai lu comme anecdote, c'est qu'à 10 ans, lorsque tous les enfants commencent à fredonner la pop italienne, etc., du coup, pour toi, c'était un peu plus compliqué. Alors toi, tu apprenais des poèmes par cœur. C'était un peu ton rock'n'roll à toi, en fait.
J'ai toujours essayé de ne pas me décourager parce que franchement, c'était vraiment un peu dur au niveau social. Je sais pas comment l'expliquer, mais pour tout le monde, la musique a un temps, un rythme.
Oui.
Je peux pas la percevoir. Par exemple, j'essayais de prendre des leçons de guitare quand j'avais 13, 14 ans.
Ouais.
Mais finalement, on fait les spectacles finales et j'avais rien appris. Toute l'année, j'avais rien appris. Et donc, l'enseignant, juste avant les spectacles, il vient chez moi, il me dit, alors, Ilaria, tu te mets là, au fond, comme ça, les autres ne te voient pas trop parce que tu vois
tu vas les déranger peut-être ou les déconcentrer.
Si tu peux jouer très très doucement comme ça on n'entend pas vraiment ton harmonie est un peu différente. Et là, mais finalement, j'étais pas déçue parce que je le savais. Je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Et là, j'ai fait mon spectacle en feignant de mais c'était comme la fake guitare.
Oui, c'est ça, je comprends. Il fallait que toi tu trouves ton style ou en tout cas tu apportais ta touch à toi. C'est ça finalement. Ça devient une originalité en fait.
Oui,
quoi.
Oui. J'ai essayé de le prendre de ses côtés parce que sinon c'était vraiment un peu une difformité.
Mais oui.
Mais je pense que c'est assez rigolo parce que ça m'a fait faire des gaffes toute ma vie et c'est drôle. Voilà.
Mais en même temps, ça contribue aussi à trouver ta voix et ton style. Alors la littérature, évidemment, elle est stimulée par tout ce que tu nous racontes, mais aussi par ce qui nous entoure. En quoi Milan, la ville où tu as passé les 18 premières années de ta vie, dans le quartier des Navili, traversé par les canaux au bord de l'eau, en quoi ça a été inspirant pour toi? Et qu'est-ce que Milano a de littéraire selon toi?
Milano, c'est une ville qui est très littéraire et c'est une ville qui est très mystérieuse, au moins elle était. Maintenant, elle a un peu changé. Elle est devenue une ville un peu plus touristique.
Ouais.
Mais quand j'étais petite, personne ne venait à Milan en touriste. C'était la ville où on travaillait. C'était
la ville des affaires.
Voilà. Mais c'est vrai aussi que il y avait des endroits où on touchait vraiment la littérature. Il y a eu des grands écrivains qui ont vécu à Milan. Bon, Manzoni, vraiment, c'est une figure qu'on on redoute un peu aussi parce que à l'école, il faut étudier son roman. Il permet si sposi.
D'accord.
En français, je crois, Les Fiancés, que moi, personnellement, j'adore, mais c'est vrai que c'était un peu difficile quand tu commences à l'école, quand tu as 13 ans, 14 ans, c'est un peu difficile. Mais voilà. Et il a vécu à Milan. Il a sa maison qui est à Milan. Et mon père, quand j'étais petite, a été, pour une période, le conservateur de cette maison.
Ah, wow!
Donc, j'avais l'impression, moi, j'avais pas lu Les Fiancés parce que j'étais...
Tu étais trop
petite,
jeune.
Voilà. Mais j'avais l'impression d'avoir, tu vois, un petit secret. J'y allais pour voir mon père après l'école, voilà. Et il avait la chambre des Manzoni. Donc, c'est vieux, écrivains du 19e siècle, mais ça me fascinait énormément parce que il avait son bureau où il travaillait et je pouvais aller et toucher les trucs. Et donc, ça m'a donné l'impression d'avoir...
Tu t'imprégnais aussi de la vie de cet écrivain qui a marqué l'Italie et la littérature italienne.
C'était ça. Et j'ai pensé avoir une relation un peu spéciale, tu vois.
Complètement.
Et après, j'ai découvert, quand j'étais adolescente, j'ai découvert un autre écrivain italien que j'adore, qui est Dino Buzzati, qui était journaliste au Corriere della Sera, mais qui a écrit aussi des histoires et des romans. J'ai adoré, il y a un roman qui s'appelle Un amour.
D'accord.
Qui est super. Et
que je n'ai pas encore lu, parce qu'on connaît surtout Le désert des Tartares, c'est ça
Voilà, c'est ça.
Essentiellement.
C'est le plus célèbre.
Mais je n'ai pas lu ce livre.
Je pense que tu vas aimer.
Et du coup, là, on est dans la thématique, on revient à raison et sentiment.
Tout se tient. Et donc, il a à Milan une sobriété très forte, mais aussi une envie de partage qui tu découvres dès que tu rentres dans les rythmes de la ville. Et ça, je trouve que ça m'a beaucoup influencé en grandissant, aussi parce que c'est une ville où il y a plein de librairies, les livres sont très importants. Il y a des maisons d'édition historiques qui sont à Milan. Et là aussi, quand j'étais au lycée, par exemple, parfois, je n'allais pas à l'école. J'étais censée aller, mais je faisais mes...
Tu t'autorisais un petit vagabondage.
Et oui, et il y avait ces... comme les bouquinistes.
Oui.
Et là, j'ai acheté beaucoup. C'était comme une éducation, parce que chez moi, chez mes parents, j'avais plein de livres, mais là, j'avais une autre éducation clandestine. C'était les livres que je choisissais.
Et c'est toi, tes choix à toi, qui commençaient à s'affiner et s'imposer.
C'était ça. Et là, j'ai commencé à écrire des histoires que j'ai données en cadeau à mes amis quand c'était leur anniversaire.
C'est
génial. Parce que j'avais jamais d'argent. Et donc, c'était mon...
Tu leur offrais des livres, des nouvelles
cadeaux,
que tu écrivais.
Voilà. Je pense que c'était horrible, c'était des histoires horribles. Je pense, j'ai un ex...
Ça va valoir de l'or.
Oui, non mais j'ai un ex avec lequel on sortait ensemble au
Bien
lycée.
Sûr, ouais.
On s'aimait beaucoup, tu vois, l'amour.
Alors, l'amour de jeunesse.
Voilà, je lui avais écrit des histoires. Et parfois, il me dit, bon, on va voir avec ton nouveau roman. Sache que je le garde toujours, on ne sait jamais.
C'est pour ça.
Et ça doit être...
C'est pour ça,
horrible.
Je pense que les amis doivent le garder quand même, tu sais, dans un coffre, en se disant un jour je le ressortirai. C'est un inédit.
Ouais, c'est ça. C'est des horribles inédits. Mais voilà.
Non, c'est génial, l'anecdote est super. Alors, ce don pour raconter des histoires te vient de toute cette enfance, de toute cette immersion dans cette ville aussi, qui t'a suggéré cette envie-là d'écrire, cette envie de littérature. Mais ça te vient aussi de ton émotivité à fleur de peau, comme un capteur qui te fait poser un regard autre, plus sensible sur le monde. Les émotions vont être au cœur de ton approche d'écrivaine, mais avant d'emprunter cette voie, il y a eu comme un doute, celui de devenir psychanalyste. Car la psychologie t'aidait à mieux comprendre et appréhender ce que tu ressentais. Tu écris, c'était même mon rêve après celui de devenir écrivaine, mais finalement, par paresse ou par manque de détermination, j'ai fait de la philosophie. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que ça nous permet d'ouvrir le chapitre 2, naissance d'une plume entre Pise et Paris.
Un petit sourire, s'il vous plaît. Merci.
Nicoli, à Paris, tu bisogna correre l'aventura.
Donc, si je résume, pour toi, la philosophie, c'était le moyen de combiner le fait d'être écrivain et psy, finalement. Parce qu'on est d'accord, la psychologie, c'est l'un des terreaux, l'une des principales matières de la philosophie, on peut dire ça.
Oui, tout à fait. Et la psychologie, la psychanalyse, tout ça découle de la philosophie. Donc, quand j'ai fait mes études à Pise, dès que j'avais le choix, parce qu'il y avait des examens qui n'étaient pas dans les curriculaires, et il fallait...
Un cursus.
Voilà, il fallait choisir. J'ai fait tous mes examens alternatifs, des psychanalyses, des théories de la psychologie, tout ça.
Okay.
Parce que ça m'intéressait énormément. Et ça m'intéressait à cause de mon émotivité très, très forte, mais aussi à cause de mon intérêt pour les émotions des autres. Non, je suis quelqu'un auquel les gens racontent beaucoup.
Se confient.
Oui, se confient beaucoup. Et c'est quelque chose qui m'est très cher parce que j'aime bien écouter sans juger. Et donc, voilà, je pense si j'avais été psychanalyste, peut-être je serais bien plus riche aujourd'hui. mais c'est vrai que c'était l'idée, je pense, au fond, finalement, que dans la philosophie, j'allais trouver aussi les racines d'une méthode.
Comprendre finalement aussi et donner ton propre éclairage d'une autre manière et peut-être à un plus grand nombre à travers les livres.
C'est quelque chose qui me fait énormément plaisir d'être traduite. Je ne l'aurais jamais pensé quand j'ai commencé à écrire. Il me paraissait déjà énorme d'arriver à écrire sérieusement avec l'idée d'en faire un livre.
Bien sûr.
C'était quelque chose qui me paraissait énorme. Je l'avouais à personne.
C'était un rêve enfoui.
Oui, parce que j'avais vraiment peur de ne pas être à la hauteur. Et là, maintenant, aujourd'hui aussi, je me pose souvent la question, suis-je à la hauteur de ça? Je sais pas. Je pense qu'on n'arrive jamais à se sentir, tu vois, accompli. Mais, et là, je trouve que ça aussi, c'est très important parce que ça te pousse à t'améliorer et aussi.
C'est le doute aussi qui nous stimule. C'est aussi
une véritable stimulant et artistique aussi.
Complètement.
Non, c'est complètement ça. Donc voilà. C'est vrai que ce choix de paresse m'a permis de chercher ma voie, de chercher mon parcours. Et là, les livres étaient là. Quand je suis arrivée à Paris, j'ai vu que je devais écrire.
Qu'il fallait se lancer.
Ouais, qu'il fallait essayer.
Alors, je fais juste une petite parenthèse pour revenir à Pise, donc en Toscane, où tu as fait tes études à l'École normale supérieure. Parmi les philosophes italiens qui vont te marquer figure Adriana Cavarero, qui est reconnue dans le monde notamment pour ses écrits sur la philosophie politique et féministe. En quoi son approche au féminin, ça a été un modèle pour toi?
C'est une figure énorme. J'ai eu la chance de lui faire un entretien l'année dernière.
Génial. Oui,
pour un journal sur lequel j'écris parfois en Italie.
D'accord.
Et c'était une rencontre formidable, mais surtout parce que quand j'avais 20 ans, quand j'ai faisais mes études de philosophie, bien sûr, c'était il y a 10-15 ans, mais on parlait bien moins du thème de la présence féminine dans l'histoire de la philosophie.
Ouais.
Et donc, c'était quelque chose qui me concernait beaucoup. À l'école normale, on était deux filles. Il n'y avait vraiment pas trop de...
Vous vous sentiez pas très reconnue et représentée.
Et on fatiguait à trouver des modèles.
Oui.
Et Adriana Cavarero, avec ses livres, Nonostante Platone, malgré Platon, je pense que c'est, et avec ses études sur ce que la pensée féministe et féminine peut apporter à la pensée philosophique, elle a vraiment fait quelque chose de révolutionnaire.
Et c'était très précurseur finalement aussi pour l'époque.
C'était assez précurseur. Et là, ses livres sont réédités, sont revenus à la librairie. Et maintenant, on a Carla Lonzi, c'est aussi une autre philosophe féministe qui a fait ça dans les années 70, elle est revenue aujourd'hui à la librairie. Nous, on était dans une période où le boom du féminisme des années 70 était un peu éteint et le boom d'aujourd'hui n'était pas encore commencé. Donc, on était un peu dans une terre des moyennes.
Un espèce d'entre-deux, en fait, c'est ça.
Voilà. Ouais. Et donc, il fallait un peu nous réinventer. Bien sûr, on lisait Simone Weil, on lisait Simone de Beauvoir, on cherchait.
Des femmes.
On cherchait. Voilà.
Ouais. C'est voilà aussi pour se sentir reconnue aussi à travers d'autres approches, parce que forcément, c'est une autre approche de vie.
Et Adriana Cavallero, elle a fait des expériences aussi dans le féminisme, de l'autoconscience, donc du récit des soi, en fonction philosophique, en fonction des connaissances et des partages de connaissances. Elle a fait des travaux très importants sur cela. Il avait Simone de Beauvoir, il avait Iris Murdoch, une autre philosophe romancière que j'adore.
D'accord.
Et aussi Hannah Arendt, qui était très copine avec Mary McCarthy, que j'adore comme romancière. Et là aussi, tu vois, c'est une contamination des genres. Donc,
il y a des fils qui se tissent entre ces femmes, justement, pour faire évoluer la philosophie vers une autre approche aussi.
Voilà, c'est ça. Toutes ces femmes qui étaient très importantes au niveau théorique, mais aussi au niveau de l'élaboration des histoires, elles me donnaient l'idée que c'était possible de créer une conciliation entre la narration et la philosophie. Donc, c'était un peu une étincelle que j'avais dans ma tête, tu vois. C'était quelque chose qui allait un jour être flamboyant dans mon besoin d'écrire, dans mon urgence d'écrire. C'est vrai qu'il y a une question de la gestion du pouvoir qui est lourde sur les femmes et dans leur idée de soi-même, dans la construction de leur identité. Et là, voilà, je voyais qu'il c'était possible de concilier tout ça sans renoncer à rien. Et donc c'était génial pour moi.
Et on le comprend, c'est une jolie passerelle justement entre l'écriture romanesque et l'écriture philosophique. Et finalement, la ville qui va conjuguer tout ça, c'est vraiment Paris, Parigi, où
tout
nous sommes. Parce que tu viens à Paris en 2012, tu vas y rester 4 ans, c'est ce que tu nous disais en début d'épisode. Tu arrives à Paris pour faire ton doctorat, écrire ta thèse sur l'étude des passions au XVIIe siècle et sur la théorie des affects de Spinoza, qui fait son grand retour. Mais tu ne t'arrêtes donc pas là. Dans cette ébullition, tu passes à l'acte et tu écris pour t'amuser au début ton premier roman noir à 29 ans, Etica dell'Aquario, l'éthique de l'aquarium, traduit en France en 2017. Hilaria, comment on passe de l'écriture d'une thèse de philo à un roman policier?
Alors c'est drôle parce que là, j'avais tout d'abord un problème. J'avais envie d'écrire parce que c'était la seule chose qui m'étendait, parce que j'étais un peu angoissée de la fin du doctorat. Il fallait que j'écrivais, que je pensais. Voilà, j'étais un peu stressée finalement parce que j'avais perdu un peu de temps au bout du chemin et, dans ma vie parisienne.
Oui, à balader au parc.
Voilà, j'avais plein d'amis. Je me suis beaucoup amusée à Paris.
J'imagine.
Et donc voilà, j'étais un peu en retard. Donc
voilà,
j'étais angoissée.
Il y avait un timing à respecter et là, tu sentais qu'il se rapprochait.
Et comme j'étais déjà en retard, j'ai décidé d'augmenter mon retard en commençant à écrire quelque chose d'autre. Bon, j'ai commencé à écrire, je pense, en 2013-2014. Donc, j'avais genre 26 ans. Voilà.
Ouais.
J'avais encore toutes les cartes jeunesse, non? Avec,
pour aller au bibliothèque,
au
musée,
cinéma,
c'est ça?
Voilà, voilà. Et là, j'ai dissipé mon temps de cette façon. Et finalement, la bibliothèque de la Sorbonne était fermée parce qu'il faisait des travaux.
Donc, là où tu travaillais, du coup, habituellement,
voilà,
c'est ça?
Donc, j'ai commencé à aller me poser dans les quartiers latins où je fréquentais plusieurs cinémas, librairies et tout ça.
Donc,
et
tu en profitais pour faire des pauses dans
voilà,
une bibliothèque
dans
du quartier.
Bibliothèque, qui était la bibliothèque de la littérature policière.
Ah.
C'est de l'autre côté du Panthéon. Et c'est une toute petite bibliothèque
des quartiers.
Je crois
que c'est la bibliothèque de Cardinal Lemoine, non?
C'est ça. Et j'ai commencé à me poser là-bas et je me disais, bon, là, je vais lire un peu. Et j'ai commencé à lire des policiers. Bon, j'ai toujours adoré les policiers. Et donc, voilà, je me disais, bon, 10 minutes et j'ai commencé à écrire. Bon, alors, en décalant les moments de commencer, de reprendre ma thèse avec laquelle j'étais de plus en plus en retard, j'ai commencé à écrire une histoire à moi-même. Parce que je me suis dit, j'étais entourée par des gens, des vieux messieurs, vieilles dames surtout, qui étaient là. Et je me disais, peut-être qu'ils sont des écrivains qui viennent ici pour voir les dossiers, parce qu'il y avait aussi des dossiers sur les crimes.
Que des écrivains de romans noirs et
donc,
policiers.
Je m'imaginais que j'étais la seule qui était là pour faire
pour écrire une simple thèse théorique,
voilà. Alors je me suis dit, bon, je vais commencer, j'écris une page. Et je l'ai envoyée à mes amis les plus chers qui étaient en Italie. Je n'ai pas dit que je l'avais écrit. Et ils m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est intéressant. J'ai dit, mais non, j'ai écrit.
J'ai commencé à écrire un roman.
Peut-être ils savaient que c'était une blague, mais voilà, ils m'ont donné leur
accord, voilà. C'est ça. Vas-y, continue.
Et donc, j'ai continué.
Et c'est plus par jeu, finalement, que tout a commencé, enfin, que
si,
tu t'es lancée.
Si, c'était un peu, voilà. Alors, j'envoyais les chapitres à mes amis qui suivaient l'histoire. C'était un peu comme les feuilletons. Tu vois,
on revient aux télé-novelas.
Voilà, un tout petit public pour lequel j'écrivais. Et chaque jour, j'étais plus en retard avec ma thèse.
Mais chaque jour, tu leur envoyais un chapitre, chapitre suivant et supplémentaire.
Et j'étais très vite avec les romans et pas très vite avec la thèse.
Pour le décrire pour les gens qui ne l'ont pas encore lu, l'histoire se déroule à Pise, justement à l'école normale supérieure, où la protagoniste, Jaya, retourne après 10 ans d'absence. Un retour qui est marqué par la disparition d'une ancienne camarade, Virginia, suite à un mystérieux suicide. Et en fait, on se laisse aller dans les rues de Pise, on découvre une ville qui n'est pas du tout celle que l'on connaît touristique, avec sa célèbre tour, tous ses restaurants à touristes. Au contraire, on découvre une ville beaucoup plus sombre et cette histoire qui nous entraîne dans un mystère. Et je dois l'avouer, en fait, j'ai découvert que tu avais écrit un roman en préparant notre rencontre. Et j'ai commencé à le lire. Il me reste 15 pages seulement.
Ah, vraiment?
Mais je l'ai dévoré cette semaine, sincèrement.
Gentil.
Donc là, j'attends de connaître la fin.
Alors, je vais rien te dire.
Non, le secret, le plus total.
J'avais un peu nostalgie de ma vie universitaire, même si j'étais très heureuse à Paris. Mais j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse quelque chose de cette sensation quand j'ai repensé à Pise. Je venais de quitter la ville et je venais de quitter cette vie universitaire. Et là, j'essayais de sublimer ça dans une histoire que j'ai inventée. Mais je pensais que l'ambientation de l'école normale était très juste pour un roman policier parce que c'était un endroit très très renfermé,
très froid. Voilà, c'est voilà. Ça. Oui, c'est ça. Avec, très très fermé.
Avec la compétition.
Pour une forme d'élite aussi. Voilà. Et on sent qu'il y a quelque chose, une atmosphère qui monte et qui se dessine entre tous ces jeunes élèves qui en plus sont en train de chercher un sens à leur vie, voilà. Mais qui du coup sont enfermés dans une structure qui est très difficile.
J'avais vraiment envie de raconter aussi cette phase de la vie où tu as 20 ans, 22 ans et tu te cherches.
Bien sûr. Hein,
parce
bien
que
sûr.
Ça, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est un moment de vulnérabilité absolue. Et là, je voulais vous montrer qu'est-ce qui arrivait aux gens dans ces moments-là.
Et ce qui est joli, c'est que ce roman, il raconte aussi l'impact d'événements de jeunesse sur une vie ensuite. Et finalement, toi, c'est aussi l'impact de ce roman, même à travers l'écriture, qui va aussi dessiner une nouvelle voie pour toi. Alors, si les deux villes au célèbre tour, Pise et Paris, semblent avoir agi comme des phares guidant tes premiers pas d'autrice, la suite de ton histoire s'écrit à Rome, où se déroule d'ailleurs ton deuxième roman, on en parlait tout à l'heure, La Reputazione, sorti en Italie en mars dernier, et il faudra que tes lecteurs français patientent encore un peu quelques mois avant de le découvrir. Roma, c'est aussi la ville où tu as élu domicile aujourd'hui pour continuer à écrire des romans donc, mais aussi des essais philosophiques. C'est ce que l'on va découvrir dans le chapitre 3. Bienvenue à Rome, Madame la philosophe.
Buongiorno, benvenuta a Roma.
Buongiorno, grazie che mi dici così.
Depuis Rome, tu as signé 3 livres philosophiques. Ils ont été couronnés d'un succès tant critique que public. Ton approche de la philosophie y est singulière, ancrée dans notre quotidien, mais aussi autobiographique. Cette philosophie, ta philosophie, elle s'écrit à la première personne. Tes réflexions théoriques s'entremêlent à des anecdotes intimes et personnelles tirées de ton vécu, ce qui, encore une fois, nous aide à nous frotter, si j'ose dire, à la philo d'une façon simplifiée, car tes expériences de vie font forcément écho aux nôtres. Tu trouvais que la philosophie, elle était trop éloignée de notre existence, de notre quotidien, qu'il fallait la rendre plus concrète ? C'est ça qui a stimulé oui. cette écriture-là ?
Oui, c'était un peu ça. Et c'était aussi que je voulais voir qu'est-ce qui arrivait après cette stimulation. Donc, si j'ai recueilli cette idée que la philosophie était aussi dans le quotidien, que c'était quelque chose dont on pouvait faire l'expérience, oui. au sens des montagnes. Donc, montagne parle de l'expérience. Donc, quelque chose qui te transforme, pas seulement dans ta tête, dans tes pensées, mais aussi dans
des actions simples du quotidien, voilà. en fait.
Tout ce qui va faire les tissus de la vie, non? Donc, tout ça, je voulais le mettre en relation. Et là aussi, les philosophes féministes dont on parlait, il y avait toujours cette idée qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà essayé de le faire et que je pouvais moi-même essayer et m'y mettre à l'épreuve aussi parce que je ne savais pas où ça allait me conduire.
Donc, comment, quand tu écris concrètement, comment tu pars de quoi ? Est-ce que tu pars justement de ton expérience à toi, d'épisodes de vie concrets qui ont été marquants pour toi et de là, tu déclines des grandes thématiques de philosophie, est-ce que c'est comme ça que ça démarre?
Oui, c'est un peu un miroir, parce que je pense que je suis plutôt attirée par des thèmes philosophiques qui ont à faire avec mon expérience. Et là, je vois que aussi mon expérience les fait résonner plus fort. C'est vrai que ce que tu dis, j'écris tout à la première personne, ouais. mais parfois c'est une masque et parfois c'est un démasquement. Non, c'est quelque chose avec laquelle je joue parce que j'ai fait aussi des études sur l'autobiographie pendant que j'étudiais. Et là, ça m'intéresse beaucoup.
Et toi-même,
beaucoup.
Aujourd'hui, je fais une parenthèse, tu donnes des cours aussi voilà. d'écriture autobiographique
oui. Oui, c'est très intéressant.
En Italie.
Ouais. Et là, je suis un peu psychanalyste aussi. Hein, parce que
tu pars des souvenirs des gens, en fait.
Ouais,
c'est ça. La base, c'est les souvenirs.
Oui, c'est la matière vivante des vies. Et là... C'est une expérience que j'adore. J'ai différents groupes parce que j'ai fait différents courses. Après, ouais. je les amène à écrire des livres qui, parfois, ont déjà été publiés. Donc,
génial.
C'est génial. Moi, j'adore faire ça. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des connexions entre les gens qui s'entremêlent et qui touchent aussi des thèmes très philosophiques. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose qui a à faire avec l'élaboration d'une conscience de sa vie.
Ouais.
C'est un peu ça. C'est un peu ça.
Et c'est quoi la vie d'une philosophe ? Est-ce que tu as un carnet dans lequel tu écris concrètement des idées, des choses qui t'ont marqué, des citations que tu as entendues et où tu te dis, tiens, cette thématique-là, ça pourrait faire un livre ? Ou est-ce que c'est comme ça qu'au quotidien, tu fonctionnes ?
Oui, C'est ça, c'est tout à fait ça. Je le fais dans mon téléphone parce que j'ai plein de carnets que je perds. Après, je les retrouve. Je suis pas quelqu'un de très très rangé. Non, j'ai vraiment, je vis dans les
c'est
chaos.
C'est l'ébullition.
Voilà, voilà. Donc, je perds tout, voilà. Mais j'ai toujours mon téléphone avec les notes du téléphone et j'écris toutes les suggestions. Et parfois, c'est des notes incompréhensibles. C'est comme des maps conceptuelles que je garde. Et là, c'est vrai, c'est, oui, il faut que je note beaucoup. Parfois, je ne fais pas attention aux choses vraiment importantes parce que j'ai une fixation, une obsession pour les détails, et voilà. Mais c'est ça qui me fait naître des idées. Et ce n'est pas toujours facile parce que parfois, je me perds parce que c'est un peu chaotique.
Mais c'est un flot. Ouais, oui, c'est ça.
C'est un peu fatigant.
D'élucubration, c'est ça. C'est vraiment au quotidien, ça tournoie autour de ta tête, quoi, j'imagine.
Oui, c'est un peu ça. Et voilà pourquoi je dors très bien. À chaque fois,
j'ai un sommeil, mais alors,
chaque fois que je me pose, je m'endors parce que je suis très fatiguée pour tout cela. Mais c'est aussi, je crois, une forme d'enthousiasme qui me pousse à vivre.
Oui, voilà. c'est ça, et qui est moteur dans ton quotidien. Alors, à travers ces confidences, tu te mets aussi à nu. Tu te décris pourtant comme quelqu'un de pudique et réservé, pas du tout dans l'exhibition. Ce sont tes mots. Alors tu dis, c'est un vrai sacrifice, c'est « je » que j'emploie, mais c'est le prix à payer aussi pour être sincère vis-à-vis de mon lecteur. Finalement, ces aveux, le partage de tes imperfections parfois, en toute transparence, ça t'a permis de te rapprocher de tes lecteurs. Quels sont leurs retours? Est-ce que tu as l'impression que ça aide des gens aussi?
Alors, j'ai l'impression que oui, je ne veux pas paraître superbe, je ne veux pas pécher
non,
de ça.
Tu es humble.
mais je pense que c'est quelque chose qui a une fonction. L'enfant timide que j'étais est toujours là. Mmh. Et là, je lui lance des défis. Ouais. Tu vois? Et c'est une question d'honnêteté, de sincérité dans l'écriture. Ce que je cherche à travers les masques et les démasquements, c'est ça, finalement. Ouais. Et je cherche un contact avec les lecteurs. Parce que moi, j'adore les écrivains qui me touchent d'une façon très personnelle, bien avec sûr. Lesquelles j'ai l'impression de parler. Ouais. Tu vois? Et alors, parfois, je reçois des messages de mes lecteurs, de mes lectrices qui me disent « j'ai l'impression d'avoir parlé avec toi ». Et là, c'est quelque chose qui vraiment me...
Fait sens pour toi et
voilà,
te touche.
Voilà, qui donne la sensation qu'il y a une signification.
Ouais.
Et j'essaie de créer un retour en stimulant aussi leur créativité. Ouais. Donc, pour moi, c'est ça aussi important de pousser les gens à ne pas se cacher, à ne pas cacher ce qui sont leurs faiblesses. Et là, je sais que ça, c'est un peu dangereux, finalement, parce que ce n'est pas toujours facile. C'est une matière
j'imagine, très
personnelle.
Brûle, ouais.
Qui brûle. Mais je pense que si on arrive à être un peu éduqué, à être honnête avec ce qu'on ressent, avec nos expériences, c'est une ouverture aux autres. Je pense que c'est aussi une démarche politique.
Ouais.
Pour moi, c'est très important, ça.
Ouais.
Je ne suis pas une politique, bien sûr, mais j'essaie de faire
mais
mon petit devoir.
Ça peut avoir un impact.
Voilà. Je pense que ça peut avoir un impact. Et j'essaie de les rendre possibles avec mes moyens, qui sont très petits, mais voilà, que j'essaie d'utiliser pour cela.
Et c'est le fil rouge, finalement, de ton approche philosophique, en fait, qu'il y ait du partage et un échange à travers cette matière-là.
Ouais.
Que ça ne soit pas juste des grandes théories dans un livre ancien posé dans une bibliothèque, en fait.
Oui, parce que je pense que j'ai eu de la chance à avoir cette relation avec les livres. Et ça ne doit pas être quelque chose qui reste, tu vois, comme si je l'ai gardé comme un patrimoine à ne pas dépenser. Je veux dissiper.
Au contraire.
Je
me
dissipe. C'est mon intention. Après, je ne sais pas si j'arrive à le faire, si c'est toujours possible, mais c'est mon essai, tu vois.
Au même titre que Milano t'a aidé ou t'a stimulé dans ton écriture, dans ton envie d'écrire quand tu étais enfant, aujourd'hui, Rome... Comment cette ville où tu vis, elle inspire tes livres philosophiques au quotidien? Comment concrètement tu médites à travers les rues romaines? Qu'est-ce qu'elle réveille en toi de philosophique, cette ville-là?
C'est vraiment énorme, Rome. Tout est énorme. L'histoire est énorme, la ville est énorme, les contradictions sont énormes. Donc, il y a toute cette stimulation qui m'arrive du fait que je me sens parfois un peu étrangère à Rome. C'est une ville qui donne beaucoup de confiance et les gens sont très,
très
familiers.
Ouvert,
ouais. Mais aussi, c'est vraiment si énorme que tu n'as jamais l'impression de vraiment y appartenir. Tu vois, tu n'as pas grandi là-bas. C'est quelque chose qui est assez intéressant, mais aussi qui te donne une perspective un peu extérieure toujours. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très exotique et que j'adore. Et là, je viens de faire un podcast sur Ingeborg Bachmann, l'écrivaine autrichienne qui a vécu presque 20 ans de sa vie à Rome.
D'accord.
Et donc, j'ai essayé de la chercher dans les rues où
Génial.
Elle habitait, dans les maisons où elle habitait. Et ça m'a donné vraiment l'impression du fait que moi aussi, je me sens étrangère comme elle. Et voilà pourquoi peut-être j'ai décidé de la chercher dans la ville. Et ça m'a beaucoup aidé à voir la beauté de la ville, parce que c'est évident la beauté de Rome, mais tu la vois mieux, je pense, quand tu as l'impression...
Quand tu découvres, voilà, quand tu arrives comme
cette
quelqu'un avec un regard neuf.
Des découvertes tout le temps, ouais, toujours.
C'est joli. Et alors justement, en préparant l'entretien, tu m'as confié qu'il y avait deux lieux spécifiquement à Rome où tu avais besoin de te reconnecter régulièrement. Il y a le jardin botanique de Rome, ouais, et l'église de Santa Susanna. Est-ce que tu peux nous les présenter et qu'est-ce qu'ils éveillent en toi en particulier? Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas?
Alors moi, j'adore les jardins botaniques. Partout, je vais toujours...
Au jardin botanique.
Voilà. J'ai une passion pour les jardins botaniques parce que j'adore cette idée de créer des ambiances où les plantes peuvent montrer leur spécificité.
Ouais,
c'est quelque chose de très littéraire aussi. Ouais. Je l'adore. Donc, dans chaque ville où je vais, aussi à Pise, j'allais toujours à l'Orto Botanico de Pise, qui est très ancien. Et celui de Rome est merveilleux.
Je le conseille. Je ne l'ai jamais visité.
C'est à Trastevere. Tout le monde, si vous allez là-bas, allez-y.
Il faut aller au jardin botanique.
Parce que, de plus, dans chaque saison, c'est toujours incroyable.
Tu le redécouvres, en fait.
Oui, il y a les roses d'hiver, il y a un jardin japonais à l'intérieur du jardin botanique. Et c'est vraiment quelque chose de très relaxant et... C'est un endroit où tu vois la vie des plantes. Mmh. Et ça me fascine beaucoup. Et l'église de Santa Susanna, c'est pas loin d'où j'habite. Mmh. C'est l'église où il y a la fameuse sculpture de l'extase de Santa Teresa.
D'accord.
De Sainte Thérèse. Et c'est incroyable. C'est une toute petite église.
D'accord.
C'est au croisement de deux grandes roues. Donc, il y a le trafic.
Il y a un énorme carrefour, ouais, du bruit, ça ne s'arrête jamais.
Parce que les embouteillages à Rome sont quelque chose d'incroyable.
C'est permanent.
C'est sauvage. Oui, mais c'est sauvage aussi.
C'est sauvage.
C'est vraiment sauvage. Et là, tu rentres dans cette toute petite église, cette petite mais merveilleuse. Il y a toujours quelqu'un qui prie. Et moi, je suis une personne très spirituelle, je pense, mais je n'ai pas une posture religieuse au niveau des rituels mais c'est quelque chose qui me touche énormément, cette église où il y a des chefs-d'œuvre de l'art et aussi la dimension de la prière, donc d'une connexion à quelque chose qu'on ne peut pas voir.
Bien sûr.
Dans le bruit de la ville, au cœur du bruit de la ville, il y a ces lieux où on peut se retrouver. Et parfois, quand je suis toujours en retard, mais quand j'ai le temps, j'y rentre. Même pour 2 minutes. Et ça me donne l'impression d'être protégée. Et là, voilà, cette idée de l'amour dont on parlait, non, d'être vulnérable, oui, et n'est pas blessé, c'est un peu là.
Cet endroit-là, c'est là où ça génère aussi une méditation, une forme de méditation, oui, sur la vie, où tu te retrouves, oui, juste avec toi-même.
Oui, c'est ça. Avec moi-même, mais aussi avec d'autres gens que je ne connais pas. Oui. Donc, j'essaie de deviner les vies et les raisons pour lesquelles ils sont là.
Et là où on retrouve la philosophe, voilà, et la romancière.
Voilà, et c'est un peu ça. C'est un peu ça. Oui, ça se connecte. Voilà.
Dans cet entretien, on a voyagé à travers Milan, à travers Pise, à travers Rome. Tu m'as juste dit que Venise était pour toi la ville du rêve. Alors, pour finir cet entretien, est-ce que tu peux nous dire en quoi cette ville, elle t'évoque le rêve? Et est-ce qu'il y a encore un rêve que tu souhaites, ou plein de rêves, que tu souhaites accomplir dans les prochaines années?
Alors, oui, Venise, c'est une ville incroyable parce que une ville sur l'eau, c'est fou,
ouais,
non? Et la première fois que je suis allée, j'étais très très petite, j'étais complètement charmée, fascinée par cette ville, et ça a toujours resté mon rêve de vie, non, d'habiter un jour à Venise. Et après, c'est drôle parce que mon amour, maintenant, l'homme que je viens de marier, ça fait pas longtemps, on s'était déjà rencontrés à Rome la première fois. Ouais. Et voilà, je suis allée à Rome pour lui. Hein.
C'était l'amour à la base.
C'est l'amour, c'est toujours l'amour.
Donc ce livre, finalement, il a été nourri.
Oui, oui. Mais c'est toujours l'amour qui peut amener à Rome,
c'est
je
vrai.
Pense. Voilà. Et donc, on s'était rencontrés déjà, mais l'endroit où quelque chose qui nous a amené après à tomber amoureux, c'était à Venise. Et donc, j'ai ces souvenirs d'une possibilité dans cette ville impossible, une possibilité s'est manifestée. Donc voilà, c'était... Et voilà. Et bon, un rêve...
C'est le songe, en fait. C'est la ville qui reste associée au songe.
C'est ça. Et voilà pourquoi, même si j'ai un peu le rêve d'habiter un jour à Venise. Je ne sais pas si ce serait bon de les réaliser ou même de les garder comme un rêve. Parce que je sais que bon, mon rêve, c'est de garder la capacité de garder des rêves. Tu vois,
je comprends. C'est toujours un peu compliqué, en fait. Parce qu'un rêve, en fait, c'est aussi ce qui nous stimule pour avancer. Voilà. Et des fois, on se dit, si je le réalise trop vite, peut-être
que... Si ça devient réel, qu'est-ce que tu vas faire? Non, c'est un peu ça. C'est un peu ça.
Ouais. C'est parfait parce que ça nous laisse sur un sujet à méditer.
Oui, c'est très fort à méditer.
Ouais. Avant d'arriver sur la phase finale d'Allora.
Ah, capisco.
Dans Allora, il y a trois rituels de fin. Le premier, c'est le conseil Dolce Vita. Je demande toujours aux invités d'Allora quels sont leurs conseils, leurs petits secrets pour amener un peu de Dolce Vita, de Dolce Far Niente dans un quotidien, même quand il n'est pas en Italie. Alors pour toi, ce serait quoi ?
La sieste.
Ah, ça, j'aime beaucoup, je valide.
moi, je trouve que ça, c'est génial.
Faire la sieste.
Faire la sieste. C'est considérer un espace pour dormir un peu, ouais. Voilà, au cours de la journée.
Toi, c'est ce que tu fais, c'est ce que moi, tu t'accordes,
ouais,
quand tu peux.
J'arrive, oui, dès que je peux, je le fais. Et je pense que là, c'était vraiment quelque chose de très enraciné dans la vie italienne. Là, il y a, depuis des années, c'est plus comme ça, mais c'était quelque chose que tout le monde faisait. Et tout le monde s'arrêtait après le déjeuner. En ouais. Italie, mais vraiment, il y a encore des villes, des petites villes, surtout au sud, où on les fait toujours.
C'est drôle.
Où, rien ne se passe. Et on l'appelle la contre-ora en Italie. La contre-ora, c'est-à-dire, c'est comme si ça allait contre l'essence du temps. Et ça, je trouve franchement super d'immobiliser l'instant, d'immobiliser la vie, parce qu'il faut se reposer. C'est bon pour la santé aussi.
Oui, c'est vrai. Et aussi savoir aussi poser, stopper le rythme, en
voilà.
fait. Et c'est là aussi que des fois, des idées nous viennent,
voilà.
en fait.
Non, vraiment,
c'est savoir s'ennuyer ou se reposer, mais se laisser un temps comme ça où voilà. on se laisse bercer ou remplir d'autres choses.
Et c'est vrai qu'on ne peut pas tout le temps le faire, c'est très difficile parfois, mais si on arrive, je pense que c'est bon. Même 10 minutes, hein, ouais. 15 minutes, c'est
ça
bon.
Ça suffit.
C'est bon, oui.
Le rituel numéro 2, ce sont les inspirations italiennes. Au cours de cet entretien, on a déjà parlé de littérature, de poésie, de philosophie, évidemment, mais on a toujours envie de récolter plus d'inspirations italiennes. Alors, si je te demande le tableau qui illustre le mieux l'art de vivre à l'italienne, qui reste gravé dans ta mémoire.
Alors là, j'ai pensé que c'est lié à la sieste, parce que c'est un tableau qui s'appelle Il Pergolato. Donc c'est
la pergola, en fait.
Voilà. Mais aussi l'après-déjeuner. Aussi, c'est
oui, c'est ça,
titre.
C'est le petit sous-titre.
Voilà,
de...
c'est ça. Et donc voilà, on y revient. C'est un tableau de Silvestro Lega, qui est un des macchiaioli. C'est peintre.
C'est un mouvement artistique.
Artistique là, qui, à la fin du 19e siècle, oui. début 20e, ils ont fait des choses très intéressantes en portant dans les tableaux des instants de vie, des vraies vies.
Du réalisme,
très
en fait.
Voilà,
c'est
du
ça
réalisme.
Aussi.
Très naïve, mais d'une façon très réaliste aussi. Et c'est intéressant parce que j'ai trouvé qu'Abi Warburg a dit que ces tableaux cueillaient vraiment un moment de la vie. Et c'est vrai.
Et c'est vrai.
Ça. C'est ça.
Je
c'est
suis allée le voir, du coup, comme
c'est fascinant,
je récolte les inspirations avant les entretiens. Et en effet, c'est complètement fascinant. On a l'impression d'être avec eux sur le petit banc de pierre, sous la pergola, avec toute cette végétation,
et
l'ombre, les jeux de lumière, c'est ça
que j'adore.
À travers les feuilles.
C'est ça que j'adore.
Et ce qui est fou, c'est que cette œuvre, elle est exposée à la Pinacothèque de Brera, c'est ça,
à Milan.
Ouais. Donc c'est ta
c'est
ville.
C'est là que je l'ai vue la première fois.
Tu l'as découvert.
Et j'étais absolument fascinée par ce tableau. Mais j'étais là aussi, j'étais petite, et il m'est toujours resté dans la tête comme l'idée d'une sérénité, tu vois, un instant suspendu.
Ouais.
Donc voilà.
C'est fou. Un film italien qui, selon toi, décrit le mieux la vérité de l'Italie aujourd'hui.
Aujourd'hui, je pense que c'est un film des débuts des années 2000 qui s'appelle Caterina va in città, Caterina va en ville.
Oggi ci siamo trasferiti nella casa dei nonni di Roma che sono morti. Ho calcolato che dal cartello arrivederci a Montalto, a quello di benvenuti a Roma.
C'est d'un metteur en scène qui vient de Livorno, la ville près d'Épise, que j'adore,
oui,
la ville sur la mer.
Voilà. Oui.
Paolo Virzì, bon, il est génial, franchement.
Ses films sont géniaux.
Et oui,
c'est vrai.
Oui. Et ses films, je l'adore, mais c'est aussi un film très satirique sur la société italienne qui n'est pas tout à fait parfaite. Et là, on le découvre, mais avec une grâce et un humour qui sont vraiment super. Et donc, c'est un film que j'adore. Je le regarde à plusieurs reprises parce que c'est vraiment quelque chose qui te parle. Voilà.
Je l'ai découvert grâce à toi. Je ne le connaissais pas et je l'ai regardé avant l'entretien. Et j'avoue, j'ai adoré.
Et
c'est très drôle, c'est très fin, mais en même temps, ça convoque plein de choses en nous aussi aujourd'hui. Ouais. Parce que si je le résume, en quelques mots, c'est l'histoire d'une adolescente qui s'installe à Rome, ta ville donc. Ses parents et surtout son père, qui est professeur, placent tous leurs espoirs en elle. Mais passer de la vie de province à la capitale, c'est quand même assez violent. Elle passe d'un univers populaire à la rencontre de familles hyper influentes romaines. C'est donc un vrai choc des cultures. Et en fait, ce qui est touchant, c'est qu'on la suit au fil de sa quête intérieure aussi, où elle se découvre elle-même qui elle est vraiment en dehors de ses parents, de ses rencontres qu'elle avait en province, mais aussi à Rome. Qui je suis vraiment, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. On l'accompagne dans cette quête, en fait.
Oui, il y a beaucoup de tendresse, je trouve, dans ces films.
Complètement.
Et même si les personnages ne sont pas parfaits au niveau moral, non, ils ont des défauts, mais ils sont racontés avec une perfection du goût de l'histoire.
Complètement.
Et avec aussi un regard très, très compréhensif.
Complètement.
Et j'ai adoré ça. Et c'est un film qui me console.
Petit conseil, vous pouvez tous le retrouver sur Netflix actuellement pour ceux qui souhaitent le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Et pour finir en musique, quelle serait la chanson qui te fait voyager en Italie dès les premières notes et ce, malgré ton amusie?
Oui, alors, je dois préciser que je ne reconnais jamais une chanson dès les premières. Il faut qu'il commence à chanter et que je retrouve les mots parce que...
Sinon, je suis perdue. Qu'est-ce que c'est?
Perdue,
je ne peux pas vous dire.
mais c'est une chanson que j'aime bien qui s'appelle Ma come fanno i marinai. C'est une chanson de Lucio Dalla et Francesco De Gregori, deux grands chanteurs, auteurs qui ont fait cette chanson à la fin des années 70.
Ma dove vanno i marinai con le loro giubbe bianche sempre in cerca di una rissa o di un bazar. Ma dove vanno i marinai con le loro facce stanche sempre in cerca di una bimba da baciare.
Elle a eu un énorme succès et après ils ont fait un tour ensemble qui s'appelait Banana Republic. Ils ont fait un disque qui s'appelle comme ça. C'était hyper cool. Ils sont des personnages incroyables les deux et ils ont une alchimie toute drôle. Et je pense que c'est pas un hasard si j'ai pensé à celle-ci parce que c'est une chanson sur le fait d'être déraciné, d'être de voyager, de trouver la vie partout.
Ouais.
Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu
que
ça,
ce soit en Italie ou en France, ou peut-être ailleurs, si un jour tu te décides à la découverte d'un autre pays, mais c'est aussi ça ce que ça veut dire.
Et elle a une allégresse un peu mélancolique, où je me retrouve beaucoup.
La personnalité qui serait, selon toi, le ou la prochaine personne idéale pour nous parler de l'Italie dans Allora?
Je te dirais une personne qui n'est pas tout à fait italienne, n'est pas française, même si elle est francophone, mais que je sais, elle adore l'Italie, et c'est Amélie Nothomb.
Amélie Nothomb, c'est surprenant. Oui. Alors ça, j'ignorais qu'elle adorait l'Italie.
Oui. Et je viens de la rencontrer à Florence la semaine dernière.
J'ai vu sur ton Instagram.
Oui, non, moi je l'adore.
Signature.
Oui, parce que mon premier éditeur italien est son éditeur italien, donc on s'est rencontrés comme ça. Et chaque année, on se rencontre. Je pense qu'elle est quelqu'un qui a vraiment cueilli l'esprit de l'Italie.
Ah, génial.
C'est surprenant.
Alors, oui, c'est ça, de la découvrir, parce qu'on connaît beaucoup son parcours, mais de la découvrir à travers le prisme de l'Italie.
Oui, parce qu'elle a beaucoup voyagé, mais en Italie, elle est italienne.
C'est drôle. C'est parce qu'elle est belge, donc c'est la plus italienne des Belges.
Voilà, le dire comme ça. C'est ça.
Bon, le mot de la fin, est-ce que tu peux nous dire quelques paroles en italien? La citation, le proverbe, ton mot préféré pour nous faire voyager en Italie jusqu'au bout de cet échange à travers des sonorités italiennes.
Oui, alors c'est de Ennio Flaiano qui était scénariste de la Dolce Vita.
Très connu, célèbre scénariste italien.
Moi, je l'adore, il est aussi un aphoriste, un écrivain génial.
Écrivain, en fait.
Et il dit ça de l'Italie qui se connecte aussi au discours de Caterina Vanville. Questo popolo di santi, di poeti, di navigatori, di nipoti, di cognati. C'est le familisme italien et aussi cette grandeur de rêver, de se voir, tu vois, un grand poète, un grand
c'est génial.
Explorateur, voilà, l'aventure et la famille. Et C'est un peu polémique, mais je me retrouve très bien.
Mais finalement, ouais. Pour toi, c'est ce qui dit de l'Italie avec panache.
Ouais.
C'est ça le... Merci infiniment, merci vraiment,
toi,
pour ce temps d'échange.
C'était génial.
Moi aussi, et vraiment merci pour ta générosité, pour toutes ces références, que ce soit en philosophie, en littérature, cinéma, peinture. Là, on a de quoi faire pour faire un petit voyage en Italie pendant tout le mois à tes côtés. Alors, merci beaucoup.
À toi.
Merci
à toi,
infiniment.
Un incroyable plaisir.
Bonne journée à Paris. Buona giornata a Parigi.
Perfetto, perfetto. Sì. Grazie, grazie mille.
Ciao.
Grazie,
ciao. C'est la fin de ce 12e épisode. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous plaît et vous inspire à l'italienne, bien sûr, pourriez-vous laisser un commentaire sur Apple Podcasts? Ce sont quelques minutes que je vole à votre temps, mais ça m'aiderait beaucoup à rendre Allora plus visible. Je compte donc sur votre coup de pouce, grazie in anticipo. Je tiens à remercier tout particulièrement Gaël Job qui a permis cette rencontre, mais aussi l'Hôtel Royal Saint-Germain pour son accueil chaleureux le temps de cet entretien. Une adresse à mi-chemin entre la gare Montparnasse et le quartier de Saint-Germain-des-Prés, idéale pour une halte parisienne. Enfin, un dernier clin d'œil à Alice Krieff des Belles Fréquences. Merci de mettre tes talents au service d'Allora. En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur Insta @allora.lepodcast pour toujours plus d'inspiration italienne. A presto!
Finiamo così!
Allora, un podcast à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute.
Tanti applausi!
Ciao!
Meraviglioso!